Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Piro et la Mégie. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Reprise timide de la circulation dans la ville de Boutembo ce mardi. C'est surtout sur les principales artères de la ville où un mouvement timide de personnes et engins roulants est observé. Cependant, dans des quartiers périphériques, quelques agitations ont été signalées. Et à Beni-Voisin, un calme précaire règne ce mardi sur la ville. La célébration du centenaire de l'église Kimbanguste ce mardi 6 avril 2021 à Kamba au Congo central. Sur place dans son discours, le président de la République demande que la journée du 6 avril de chaque année soit célébrée, soit déclarée chômée et payée en République démocratique du Congo. C'est en mémoire du prophète Simon Kimbangu et de la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir. Maître Pierre Bibombe, coordonnateur pays de l'ONG Enfants Avenir et Nave, notre invité. Il parle de la situation déplorable de près de 900 enfants après les violences ethniques survenues à Bakwankenge dans la province du Kasaï. Il mobilise également les autorités politico-administratives ainsi que les partenaires en faveur de ces enfants. Nous le suivrons avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. À Boutembo, au Nord Kivu, une reprise timide de la circulation est observée dans la ville ce mardi. C'est surtout sur les principales artères de la ville où un mouvement timide des personnes et engins roulants est observé. Cependant, dans des quartiers périphériques, quelques agitations ont été signalées, notamment du côté des Katia, Moussimba, Vouira et même Afuru et Kitulu. À certains de ces endroits, des jeunes exigent de l'argent aux passants et d'autres font marcher les passants pieds nus en signe de deuil. Entre-temps, les activités socio-économiques des bases sont toujours fermées. Quelques habitants se disent déjà asphyxiés et plaident pour la reprise des activités. Le reportage Sadiki Aboubakar.
Comparativement à la journée du lundi, la ville de Boutembo s'est réveillée avec un visage vital ce mardi matin. Une circulation, bien que timide, a été observée depuis le lever du soleil sur les principales artères au niveau du centre commercial. Toutefois, les grandes activités socio-économiques restent encore paralysées. Si une frange de la population appuie cette situation, quelques habitants, généralement des femmes de ménage, plaident pour la reprise normale des activités. C'est le cas de cette couturière que nous avons rencontrée.
Nous vivons quotidiennement. Quand je suis en mouvement, les clients se présentent pour faire des commandes et c'est ainsi que ça marche jour après jour. Même maintenant, il n'y a pas d'activité, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de champs, nous ne vivons que de notre travail journalier. C'est pour ça que nous dénonçons ces journées ville morte. Et on nous dit que ça sera pareil pendant 10 jours, alors que juste un jour nous asphyxie.
Ces autres femmes sont des marchandes de produits vivriers. Elles ramènent leurs marchandises de Kabacha à environ 30 km au nord de Boutembo sur la route Beni. Faute de les évacuer, ces produits pourrissent, disent ces femmes. Ainsi, elles plaident pour la reprise des activités.
Nous avons amené des avocats, ananas, feuilles de manioc et des bananes plantains. Mais tout est presque déjà pourri, nous serons donc obligés de les jeter. Ça pèse énormément sur nos petites économies.
Boutembo, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Toujours au nord Kivu, la société civile des Kamandi au sud du territoire des Lubero dit compatir avec les victimes des massacres des Beni. Cependant, cette structure citoyenne dit non au départ des humanitaires tels que voulus par certains mouvements citoyens et autres organisations locales. D'après Sami Sakoumi, son président, les humanitaires jouent un grand rôle dans cette partie de la province inondée des vulnérables, notamment les déplacés internes, fuyant les atrocités des groupes armés et victimes de plusieurs catastrophes naturelles. Il dit craindre de lourdes conséquences si les ONG humanitaires quittaient la zone. Il a été joint par Grâce Hamzati.
Dans la partie sud du territoire de Lubero, nous avons encore besoin des humanitaires. Car sans les humanitaires, on ne devrait pas avoir même une addiction d'eau potable ici. L'eau que nous consommons ici, ce sont les humanitaires que les Ukrainiens avaient construit. Mais aussi, les humanitaires étendraient de venir en aide aux déplacés internes qui quittent les régions et sécurisées. Ils sont en train de les venir en aide sur les soins médicaux, voire même de la nourriture, construisant même des abris pour eux. Je ne vois pas la raison de dire que les humanitaires peuvent partir. Mais nous sommes d'accord avec l'appel.
Alors, quel message vous lancez à tous les groupes de pression ou mouvements citoyens, tout comme à toute personne qui manifeste pour le départ des humanitaires de la région?
Moi, j'ai dit à mes collègues de Boutembo et de Beni de rester calmes. Quand nous allons les chasser, ce n'est pas à dire que la guerre a pris fin ici chez nous. Pourquoi nous allons nous diviser entre nous ici?
Restons encore au Nord Kivu. Un calme précaire règne ce mardi à Beni à la suite d'une série de manifestations annoncées par certains groupes de pression afin de réclamer la fin des tueries dans la région. Pour faire face à toute éventualité de débordement, les forces de défense et de sécurité déployées depuis hier dans des endroits stratégiques sont toujours visibles dans la ville. André Kitenge vous fait le point.
Deuxième jour ce mardi de la manifestation des groupes de pression qui paralysent plus ou moins les activités socio-économiques dans la ville de Beni. Certains commerçants qui tentent d'ouvrir leurs magasins hésitent encore à le faire, craignant la colère de certains jeunes des groupes de pression qui interdisent toute activité commerciale dans la ville. Néanmoins, le trafic a plus ou moins repris et quelques motards assurent le transport de la population sans crainte. En début d'après-midi, certains commerçants ainsi que des bistrots ont commencé à ouvrir leurs portes. C'est le cas du marché central de Kilokwa. Mais la plupart de ceux que nous avons rencontrés disaient subir des menaces de la part des groupes de pression à travers les réseaux sociaux et seraient même listés. Entre-temps, les forces de défense et de sécurité sont toujours présentes dans la ville. Elles tentent de faire régner l'ordre. Rappelons que samedi dernier, le maire Haï avait interdit toute manifestation publique dans la ville, évoquant une infiltration des hommes armés non encore identifiés dans sa juridiction. Il faut noter qu'au cours de la manifestation d'hier, une dizaine de personnes a été arrêtées, parmi lesquelles une femme et deux mineurs. Certains ont été déjà transférés ce jour à la prison de Kangwaï. André Kitenge, Beni, Radio Okapi.
Retournons ici à Kinshasa où une commission d'enquête spéciale sur les tueries au Nord Kivu et en Ituri est en gestation au niveau de l'Assemblée nationale. La commission aura, en vertu de l'article 48 du règlement intérieur de la Chambre basse, le plein pouvoir d'enquêter sur toutes les institutions du pays, y compris au sein de l'armée. La conférence des présidents a adopté la proposition de la mise sur pied de cette commission qui sera soumise à l'approbation de tous les députés au cours de la plénière de ce mercredi. À en croire le député Krassien Irachan, auteur de cette proposition, la mise sur pied d'une commission d'enquête est une grande avancée pour la paix dans l'est du pays, car selon lui, toutes les initiatives précédentes n'ont jamais abouti pour des raisons des secrets défense. Gratien Irachan est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous nous réjouissons du fait que les bureaux, pour une fois, a accepté d'aligner dans l'ordre du jour une institution d'une commission spéciale. Donc ça nous permet vraiment de comprendre de fond ce qui se passe à l'est. Nous allons aller au-delà des secrets défense parce que nous devons connaître ce qui se passe réellement au sein de l'armée. Aucun député ne peut accepter à ce qu'il y ait continuité de massacre à l'est parce qu'on couvre un ami, un collègue. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc nous sommes pour une enquête élargie qui peut aller même au niveau de l'armée. Donc il faut qu'on enquête, on sait, de l'armée, des différentes institutions. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a aussi le gouvernement où il y a des ministres qui sont pointés, il y a même la présidence de la République où il y a des conseillers qui sont pointés. Donc il faut que l'enquête n'ait pas de barrières, tout simplement. Et ça permet à ce qu'on mette fin à tout ce qui se passe comme massacre à l'est de notre pays.
Nous vous l'avions annoncé, Radio Okapi lance cette semaine une série des productions pour mieux vous faire comprendre le mandat de la MONUSCO dans son volet des protections des civils de 2001 à nos jours. Enfin, troisième stratégie pour la protection de la population civile, la mission de l'ONU procède à la mise en place d'un environnement protecteur par la création notamment des zones tampons et des îlots de sécurité. Déploiement préventif, collecte des renseignements, mise au point du système d'alerte, toutes ces actions permettent aux forces de l'ONU de protéger les civils en danger, d'empêcher les attaques et par conséquent de sauver des vies. Honoré Missenga Kalala.
Les acteurs en présence dans la mission de la MONUSCO de protéger les civils sont sa force militaire, spécialement la brigade d'intervention et ses différentes composantes. La force de la MONUSCO opère actuellement avec un effectif de 14 000 militaires maximum autorisés par la résolution 2556. Quant aux objectifs de protection, ils ont été définis dès la création de la MONUSCO dans la résolution 1291 de 2000, notamment faciliter l'aide humanitaire et veiller au respect des droits de l'homme, particulièrement des personnes vulnérables comme les femmes et les enfants, et au nombre de grandes réalisations à mettre à l'actif de la mission onusienne dans l'accomplissement de ce mandat. On pourrait retenir entre autres le soutien aux civils pendant et après la guerre de Kisangani entre les troupes rwandaises et ougandaises en 2000, le déploiement d'un bataillon ilgoyen de 3000 officiers et soldats dans les deux Kivu en 2001, ainsi que l'appui et le soutien logistique de la brigade d'intervention de la MONUSCO grâce auquel les FARDC sont parvenus en quelques jours à gagner la guerre contre le M23 en 2013.
Notez que demain, vous suivrez la suite de cette campagne sur l'explication du mandat de la MONUSCO dans son volet protection des civils en Ituri. Comme je le disais dans le titre, le président de la République demande que la journée du 6 avril de chaque année soit déclarée chômée et payée en République démocratique du Congo. C'est en mémoire du prophète Simon Kimbangu et de la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir. Félix Tshisekedi l'a déclaré ce mardi 6 avril en Kamba dans son discours prononcé à marge de la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste. Le chef de l'État a adressé cette requête aux deux présidents de deux chambres du Parlement présents à cette cérémonie. Cette demande a été chaleureusement accueillie par Papa Simon Kimbangu Kyangani, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, et par les fidèles de cette communauté. Dans cet extrait proposé par Pele Kipelamondo, le président Félix Tshisekedi revient sur la personne du prophète Simon Kimbangu.
Je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu, de même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire « Matondo Mingi ».
Notons que le chef de l'État a par la même occasion inauguré le musée Simon Kimbangu, toujours en Kamba. Retournons au Nord Kivu, le retard dans la mise en place du gouvernement reste actuellement la principale question qui brûle les lèvres des Congolais, acteurs sociopolitiques ou non. Ils pensent que cette longue attente bloque le bon fonctionnement de toutes les activités. Gabriel Wamenia.
Nommé comme premier ministre et donc formateur du gouvernement de la RDC depuis le 15 février dernier, Sam Alokonde n'a toujours pas formé le gouvernement de l'Union Sacrée. Celui-ci est très attendu par les Congolais. Que pensent les Congolais, surtout ceux du Nord Kivu, de cette léthargie politique? Le premier acteur à réagir parle d'une prise en otage de la RDC par les acteurs politiques véreux. David Katumbi.
D'une manière générale, d'abord, ça freine presque toutes les activités économiques. Donc, nous sommes totalement pris en otage par ces politiciens. Ne peut être ministre dans ces pays que quelqu'un qui appartient à un parti politique. C'est pas possible ça.
Pour la fédération de l'IDPS, il est évident que la publication du gouvernement prend du retard. Mais cela est motivé par le fait que les formateurs veulent à tout prix travailler avec une équipe qui, selon lui, répondra à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Georges Ararampiro.
C'est vrai, le mal est profond. L'autorité est en train de vouloir raisonner à double pour qu'il monte une équipe qui va aider la population.
D'autres acteurs de la société civile qui requièrent l'anonymat envisagent des actions publiques avant le 20 avril pour pousser les acteurs politiques à s'assumer. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
La RDC devrait bientôt terminer le déminage de toutes les mines antipersonnelles sur son territoire. C'est le Centre congolais de lutte antimine qui l'a annoncé à Kinshasa c'est lundi 5 avril au cours de la célébration de la journée internationale antimine sous le thème national vers l'objectif zéro mine, zéro explosif des guerres et zéro engin explosif. Improvisé en persévérance, partenariat et progrès, une grandiose cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé a marqué cette célébration. Jean-Pierre Elali Ikoko pour le reportage.
Au cours de la cérémonie, l'UNMAS et les SESLAM ont présenté une série d'activités de sensibilisation, représentation théâtrale du groupe Tumao, démonstration des déminages par une équipe spécialisée et témoignages et défilés des victimes. Le coordonnateur du SISLAM, Maître Soudi Alimassi, a reconnu les efforts fournis par la RDC et ses partenaires.
L'État congolais, en collaboration avec tous les partenaires du secteur, a fait un grand travail. Nous connaissons le nombre des zones, 33 zones avec plus ou moins 30 000 mètres, mais ça peut lutter. Si on a le moyen, dans moins de 6 mois, on peut terminer.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kangondé, a déploré les conflits à l'origine de la prolifération des mines et autres engins explosifs.
Tous ces conflits ont laissé sur le sol congolais des mines antipersonnelles ou antichars, des restes explosifs de guerre sous toutes les formes, jusqu'aux sous-munitions, provoquant un nombre considérable de victimes civiles innocentes, particulièrement les femmes et les enfants.
Le responsable de l'UNMAS, RDC, a lu le message du secrétaire général de l'ONU marquant la célébration de cette journée.
Actualité internationale.
Le Conseil des ministres soudanais a approuvé mardi 6 avril un projet de loi visant à abroger le boycottage d'Israël en vigueur depuis 63 ans, après avoir accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu fin 2020. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi abrogeant la loi sur le boycottage d'Israël datant de 1958 pour l'année 2021, a-t-il indiqué dans un communiqué. La balance risque-bénéfice continue à peser largement en faveur de l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, a affirmé mardi un responsable de l'Organisation mondiale de la santé, expliquant que des experts étaient réunis cette semaine pour débattre d'un possible lien entre ce vaccin et certains types rares de thromboses. Rogério Pinto de Sá Gaspar, directeur de l'OMS chargé de la régulation, a insisté sur le fait qu'en l'état actuel des connaissances, la balance risque-bénéfice reste très largement positive.
L'invité.
C'est le coordonnateur pays de l'ONG Enfants à venir et NAV, maître Pierre Bibombé, qui parle de la situation déplorable de près de 900 enfants après les violences ethniques survenues à Bakwankenge dans la province du Kasaï. Il explique que ces enfants sont privés de la nourriture, des soins de santé, de la scolarité et autres. C'est ainsi que cet avocat du barreau du Kasaï central mobilise les autorités politico-administratives ainsi que les partenaires en faveur de ces enfants. Maître Pierre Bibombé s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Maître Pierre Bibombé, bonjour.
Bonjour, cher Blaise.
Une crise communautaire a éclaté une fois de plus dans la localité de Bakwankenge, entre Kouba et Louloua. Quelle est la situation des enfants dans cette partie du pays?
Vous le savez, monsieur Blaise, lorsqu'il y a une situation de conflit, c'est souvent les enfants et les femmes qui sont les premières victimes. En fait, la situation de Bakwankenge est tellement alarmante parce que, actuellement, en termes de bilan, les personnes déplacées, nous sommes déjà à environ 25 000, parmi lesquelles plus de 890 enfants. Enfants, actuellement dans une situation déplorable avec le parent brousse. Nous sommes en train d'enregistrer des enfants non accompagnés, c'est-à-dire des enfants qui sont en rupture totale avec leur famille, avec leurs parents, même des enfants qui ont eu à participer dans les hostilités parce que les deux communautés sont en train de s'organiser à travers les groupes d'autodéfense pour essayer de se prendre en charge. Et parmi ces jeunes-là, il y a également des enfants, donc des personnes de moins de 18 ans. Donc la situation est tellement alarmante, étant donné que même des enfants qui sont blessés ne bénéficient pas d'une assistance médicale appropriée.
Est-ce qu'on peut avoir les chiffres des enfants qui ont connu des blessures?
Effectivement, nous avons eu 5 enfants qui ont eu des blessures très graves. Il y a également 3 enfants qui seraient dans un état critique. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme à l'endroit des autorités du Kasaï et du Kasaï central, à l'endroit de partenaires, pour urgentement mettre en place un programme d'assistance de ces enfants.
Quels sont les risques que courent les enfants de la localité de Bakwankenge et ses environs sur les plans sociaux?
Lorsqu'il y a une situation pareille, il y a risque que les enfants puissent être victimes de viol, parce que la plupart seront dans une situation de séparation avec leurs parents. Et il y a également les risques que ces enfants puissent rater cette année scolaire dans cette zone-là. Les écoles ne sont pas épargnées. Les risques sont abondamment potentiels. Dans une situation pareille de crise, les enfants sont en brousse avec leurs parents. Imaginez-vous l'état de la protection de ces enfants. Est-ce qu'ils ont accès à l'eau? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation? Est-ce qu'ils ont accès à une assistance humanitaire, la situation est catastrophique. Donc, en termes même de leur scolarité, la zone est déserte. Bakwankenge, Benemilombe, tout le monde est en brousse. Tout ça, ce sont des éléments qui attestent qu'il y a réellement un problème de protection à Bakwankenge concernant les enfants. Alors, c'est pourquoi nous pouvons lancer un appel à l'endroit des autorités, à l'endroit des partenaires, pour voir dans quelle mesure ils peuvent intervenir dans cette situation. Et ça arrive à la veille du départ de la MONUSCO dans la zone. C'est pourquoi nous sommes parmi les gens qui demandent que c'est très tôt que la MONUSCO puisse quitter dans l'espace Kassai, avec tout ce que nous avons connu comme crise, et comme nous en savons maintenant, c'est la crise Luba et Kuba, ça risque de dégénérer et contaminer toute la région du Kassai.
Alors, quelle est la contribution de l'ONG Enfants Venir en faveur des enfants impliqués dans cette crise?
Enfants Venir est en train de faire une analyse de protection sur la situation à travers nos moniteurs qui sont dans la zone, à travers nos contacts, au-delà de la réponse psychosociale que nous sommes en train d'apporter, parce que nous allons installer les espaces d'écoute à Benantumba, dans les zones d'accueil, je fais allusion à Beneleka, donc ce sont les zones actuellement qui sont en train d'accueillir les déplacés de Bakwankinge. Nous allons implanter les espaces d'écoute pour essayer d'apporter les premiers soins de secours aux enfants affectés par ces conflits. Écoutez, une situation comme ça de Bakwankinge avec cet affrontement doit attirer l'attention de tout le monde. C'est comme ça qu'est né le conflit comme une ensemble. Ça a commencé à travers une petite dispute au niveau de la famille royale et puis ça a embrasé toute la communauté. Il faut que les autorités prennent au sérieux la situation avec tout ce qui se passe. Nous estimons que c'est le fruit des frustrations qui étaient mal gérées.
Alors, qu'est-ce que vous lancerez comme message aux deux communautés, Luba, Kuba?
Le message clé que nous pouvons lancer, c'est le retour de la paix. On ne peut pas bâtir une communauté à travers les actions de développement dans des crises pareilles. Que les deux communautés se sentent concernées par, d'abord, la vision du chef de l'État qui voudrait que la paix règne dans l'espace Kassai pour que nous puissions amorcer les actions de développement.
Maître Pierre Bibombé, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.